La vie fait son cinéma, comme tous les jours à cette heure-là sur France Inter.
C'est ça le cinéma, c'est de grâce au cinéma, on peut dire que le monde devient rêve et que le rêve à son tour redevient monde.
La vie fait son cinéma. Florence Colombani.
You shall see darkness cover Egypt when the sun climbs high to noon.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite.
The Lord is my rock and my fortress.
Let us fight to free the world.
On les connaît, ces scènes classiques des films de guerre où le général trouve les mots pour emmener ses hommes au combat. Mais pour recevoir une leçon d'éloquence, autant se tourner vers Shakespeare, filmé par Mankiewicz, pour comprendre, avec l'historien Jean-Claude Casanova, comment galvaniser une foule.
Écoutons Marc-Antoine. Antoine, monte à la tribune publique. Nous voulons l'entendre. Monte, noble Antoine.
Grâce à Brutus, je parais devant vous.
Qu'est-ce qu'il dit de Brutus?
Il dit qu'il peut paraître devant nous parce que Brutus l'y a autorisé.
Alors Jean-Claude Casanova, nous regardons cette scène de Jules César. Brutus, joué par James Mason, vient de s'adresser à la foule. La foule est enthousiaste, convaincue qu'il fallait en effet tuer César. Sauf que voilà Marc-Antoine, joué par Marlon Brando, qui s'avance. On sent la foule très hostile, elle n'a pas du tout envie d'entendre un nouvel orateur après le discours brillant de Brutus.
Brutus. Ne dis pas de mal de notre ami Brutus ici.
César était un vrai tyran.
Oui, il n'y a pas de doute, bon débarras pour Rome.
Marlon Brando s'avance, il fait un geste pour apaiser les Romains.
Chers compatriotes.
Et il n'arrive pas tout de suite à capter leur attention. Et puis, peu à peu, va se déployer cet art oratoire extraordinaire qui est à la fois celui de Shakespeare et là celui d'un grand interprète. En quoi est-ce qu'on a là une leçon de l'art oratoire?
Je crois que c'est le plus grand discours politique et oratoire, la plus grande rhétorique de l'histoire du théâtre et je serais prêt à dire de l'histoire intellectuelle. Parce que la démarche de Shakespeare, en l'espèce de Marc-Antoine, est la persuasion d'une foule qui a été manipulée d'une certaine façon, comme le montre le début de la pièce, et qui ne rend pas à César les mérites qui lui sont dus. Et donc toute l'intelligence du discours de Marc-Antoine consiste à partir des passions telles qu'elles existent, à se dissimuler. D'ailleurs, il commence par dire « je ne viens pas pour faire son éloge, je viens pour l'enterrer ». Puis il dit progressivement « c'est un homme honorable », etc. Il justifie presque les assassins de César, il les comprend tout au moins, et puis progressivement il fait apparaître aux Romains ce qu'ils doivent à César, ce que César a apporté.
I speak not to disprove what
N'allez pas croire que je réfute les propos de Brutus.
But here I am to speak what I do
Mais je
know.
Suis là pour prouver ce que je sais.
You only love him once, not without cause.
Vous aimiez tous César, et non point sans cause.
What cause withholds you then to mourn for him?
Quelle cause alors vous retient d'épancher vos larmes?
Oh, judgment thou art led to Brutus.
Oh, jugement, ton refuge est auprès des bêtes.
And men have lost
Les their humains ont perdu la raison.
Et progressivement, si vous voulez, le peuple, la plèbe en l'occurrence, auquel il manifestement Shakespeare veut montrer la manipulation et la transformation de la plèbe en un peuple, c'est-à-dire le passage de la passion à la raison politique.
Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar and I must pause till it come back.
Pardonnez-moi, mon cœur gît sur ses marches avec César et il me faut attendre qu'il veuille revenir.
He thinks there is much reason in his saying.
Mark his words.
Marc-Antoine l'a bien dit. Trois fois il a refusé la couronne. C'est bien signe qu'il n'était pas un ambitieux.
Dans ce cas-là, il y en a qui vont le payer cher.
Antoine est l'homme le plus noble de Rome.
Observez-le.
He begins again to speak.
Il va reprendre la parole.
Ça se termine par une forme d'apothéose, d'une certaine façon, et la déroute des ennemis et des assassins de César. Et de leur profonde ingratitude, il oppose au fond la gratitude nécessaire du peuple romain à l'égard de César et l'ingratitude envieuse de ses assassins.
Aujourd'hui, il est là et le dernier des humbles ne songe même pas à l'honneur.
Oh, masters,
Oh, mes concitoyens,
if I were disposed,
si vraiment j'étais prêt à inciter les cœurs, les esprits à la rébellion et à la colère, je nuirais à Brutus comme à Cassius, son ami, qui chacun sait sont irréprochables.
I will not do them wrong.
Je ne ferai rien qui leur nuit.
I rather choose to wrong the dead.
J'aime autant nuire à celui qui est là, à moi-même et à vous, que de m'en prendre à ces gens irréprochables.
Qu'est-ce qui fait de Marlon Brando un Marc-Antoine particulièrement convaincant ?
Ah, je crois que c'est le talent propre de Marlon Brando. Et un talent étonnant, cette voix un peu blanche au départ, si vous voulez. C'est un de ses meilleurs rôles, il faut dire qu'il est porté par un metteur en scène exceptionnel et par un génie théâtral. Donc c'est assez exceptionnel, mais il s'en tire parfaitement. Le Marc-Antoine de Brando est le meilleur Marc-Antoine que j'ai jamais vu.
Et il a un physique très romain.
Oui, non, il a un physique très romain, il a un visage rond, si vous voulez. Il y a quand même, je crois, un art théâtral très profond de Brando. Il ressemble au grand comédien classique, si vous voulez. C'est un comédien incomparable dans cette pièce. Comédien incomparable, mais il faut dire porté par un texte extraordinaire, parce que ligne après ligne, la longue Horatio, cet admirable discours, si vous voulez, est extraordinairement travaillé, si vous voulez, la progression des termes, le passage progressif des arguments, etc. J'espère que les professeurs apprennent à tous les enfants, si vous voulez, à étudier ce qu'est un grand discours politique et ce qu'est une grande rhétorique.
Et j'ai un parchemin trouvé dans la demeure de César et portant son cachet, son testament. Et le peuple en connaissait le contenu.
Mais
pardonnez-moi, je ne tiens pas à lui. Lis-nous le testament. Lis-le, Marc-Antoine. Nous voulons connaître son testament.
C'est un grand discours politique parce que l'orateur cherche à éveiller des émotions chez son public.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs là que se voit le grand orateur. C'est celui qui décèle les sentiments, les passions qui existent en face de lui et qui petit à petit fait émerger, au-delà des sentiments et des passions, la lumière qu'il veut atteindre, le but qu'il veut atteindre ou la raison qu'il veut faire apparaître.
Vous voulez donc m'obliger à lire le testament ? Dois-je descendre ? M'en donnez-vous la permission ?
Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon politique de cette scène ?
Comme toujours, dans les œuvres assez géniales, c'est de multiples leçons, parce que vous pouvez le regarder d'une façon sombre, comme une manipulation d'une certaine façon, comment un orateur transforme l'état présent. Et vous pouvez aussi le regarder, comme je pense, c'est le sens profond de la pièce, comme la supériorité de la raison vis-à-vis de la passion et de l'envie. Au fond, Shakespeare fait apparaître la corruption de la société et ensuite, dans l'apothéose de César à travers Marc-Antoine, il rend justice à César. Et toute la pièce se termine évidemment par la déroute des ennemis de César.
La vie fait son cinéma, réécoutez chaque jour sur franceinter.fr.